Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous y sommes, il est 6h08, grand bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce samedi 28 novembre 2020, jusqu'à 10h c'est votre week-end des experts, vous le savez, on sera là demain avec Jean-Luc Moreau, 7-10 pour l'automobile, 6h-7h ce sera de quoi je me mail, et au menu de ces 4h tout à l'heure, dans la vie numérique avec Raphaël Grably, on parlera jeux vidéo. Avec une année un peu charnière hein, pour le marché du jeu vidéo, avec deux nouvelles consoles qui sont sorties. Comment choisir dans ce domaine? PlayStation 5, nouvelle Xbox, enfin si on en trouve, on est d'accord. On parlera aussi de jeux. Quels sont les meilleurs jeux pour cette fin d'année? On en parlera avec Raphaël et nos invités. 8h-9h, la forme, la santé. On évoquera la charcuterie avec Christian Recchia. Voilà, c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses... on va dire, pas forcément très agréable concernant les qualités nutritionnelles de la charcuterie. On rentrera dans les détails tout à l'heure avec, là encore, nos invités. 7-8, la maison, Christian PC. Ce sera un architecte d'intérieur qui sera notre invité. On parlera de ce sujet, justement, comment rendre son intérieur plus plaisant, quelles sont les tendances actuellement. Et puis, on vous donnera aussi toutes les astuces pour améliorer le tirage de votre cheminée. Et puis, pour débuter, vous le savez, 6h-7h sur RMC, c'est le jardin. Et le jardin, c'est avec Patrick Mulan. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue au jardin. Vous n'avez pas un truc pour améliorer le tirage du loto, par exemple?
Ça c'est vrai, il faudrait peut-être demander tiens, aux ramoneurs s'ils ont les résultats du tirage du loto aussi. Je ne suis pas certain.
Non.
Patrick, on est ensemble jusqu'à 7h sur RMC, une heure de jardin. Dès maintenant, vos questions. Manuela nous attend, on va la retrouver dans une minute. Et au menu, Patrick, tout à l'heure, les vignes vierges, les reines des couvre-murs, ce sera notre dossier de ce samedi.
Voilà, elles ont été très 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 belles cet automne, donc ça m'a donné envie de vous en parler, parce que quand on a un mur aveugle, c'est très très bien d'avoir ce genre de plantes.
Mais oui, vraiment, ça change tout.
Oui,
ça change. On évoquera aussi tous ces outils à batterie, vous savez, pour le jardin. Pour ou contre, ce sera le grand débat de ce samedi. Patrick, ça sera dans un instant.
Un petit peu, oui, parce qu'en fait, c'est quand même une montée en puissance de ces batteries. Bon, après, comme toute chose, c'est toujours mis en cause. Vous savez, on est dans une civilisation.
Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui.
Oui. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire que c'est pas bien. Bon, voilà.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est comme ça dans tous les domaines. Et si vous avez des questions justement sur ces outils de jardinage, n'hésitez pas, le 3216, l'appli RMC Direct Studio, pareil, hein, toutes vos questions jardin, sur les vignes aussi qu'on évoquera, le 3216, les vignes vierges, attention, c'est vrai que c'est pas la même chose. 3216, Amina vous attend, Direct Studio, on est connecté, via votre smartphone vous pouvez nous poser vos questions. Et vous nous laissez votre numéro de téléphone. Voilà, bienvenue, merci d'être là. Et on attaque tout de suite avec Manuela qui nous attend au 3216.
Allô.
Bonjour.
Oui, Manuela, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour François, bonjour Patrick.
Bonjour Manuela.
Alors voilà, moi j'ai une question. J'ai une sauge Amistad et je voudrais la transplanter parce qu'en fait elle est dans un endroit qui ne me convient pas. Et je voulais savoir si je pouvais le faire maintenant ou si je devais attendre le printemps, sachant qu'elle est toujours en fleurs.
Alors évidemment, c'est toujours une sorte de crève-cœur de se dire est-ce que la plante, elle est en fleur et va supporter, ou est-ce que faut pas quand même que je garde la floraison, etc. Bon, il faut savoir une chose, c'est que la sauge Amistad, qui est un hybride, alors qui est certainement un hybride naturel de sauge Guaranitica, donc ces plantes qui viennent d'Argentine. La rusticité est pas extraordinaire, hein. C'est une plante qui, à partir de moins 7 degrés, souffre ou même peut être détruite. Hein. Donc, et ça, vraiment, c'est presque, j'allais dire, le maximum qu'elle supporte. Donc, à la limite, transplanter en ce moment, même carrément, je dirais, la mettre dans un pot pour la protéger dans un coin abrité, ou pour la mettre même dans une véranda, c'est pas quand même une mauvaise chose. D'autant que, je vous rappelle, on vient de passer la Sainte-Catherine, hein, puisque la Sainte-Catherine, oui, c'est le 25 novembre, et on dit bien, tout bois prend racine. Donc les transplantations, les plantations sont vraiment idéales en cette saison. Donc le problème que vous avez avec la sauge Amistad, c'est surtout son problème de rusticité potentielle.
D'accord. Par contre, j'ai une serre, donc je peux très bien la mettre dans un pot et puis la mettre sous serre.
C'est une serre qui est pas chauffée ou qui est chauffée?
Non, pas chauffée.
Ouais, alors très bien. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Donc là, alors si vous faites bien attention en arrachant la plante avec sa motte de terre et que vous la mettez dans un pot de dimension confortable,
oui.
Une fois installée dans la serre, tant que ça ne sera pas hors gel, je pense qu'elle va continuer sa floraison, parce que c'est une plante qui peut vraiment, vraiment fleurir longtemps. Hein. Alors, d'accord. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça fait des sortes de tubes violets foncés. C'est vraiment très, très joli. Hein, comme, oui. En plus, avec une sorte de contraste avec le feuillage qui est en forme de cœur et qui est d'un vert un petit peu mat. Non, c'est vraiment une très belle sauge. Bon, il y a beaucoup d'autres sauges qui sont un peu dans le même cas, hein, la sauge ananas, etc. Donc, qui sont des plantes qu'il faut, on va dire abriter. Alors, dans les régions, vous êtes dans quelle région?
Je suis en Normandie.
Oui, alors donc raison de plus, hein, en Normandie, il y a quand même des vrais risques. On va dire que dans les régions à climat doux, on laisse plutôt cette plante en pleine terre, à condition que le sol soit bien drainant, parce que ça aussi, il faut savoir, je le dis souvent, mais que la résistance au froid d'une plante est toujours supérieure dans un sol sec que dans un sol humide. Et si on est avec un risque de gelée, eh bien, on va mettre une couche de paille, de foin ou de feuilles mortes sur la souche de la plante qui redémarrera au printemps.
Mais c'est ce que j'avais fait l'année dernière, oui, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Je l'avais, parce que ça fait 2-3 ans qu'elle est en pleine terre, et je l'avais paillée, et puis j'avais attendu le printemps pour la tailler, et puis elle est repartie.
Oui, mais l'année dernière, on a eu un hiver extra doux. Là, dès la semaine qui vient, on va rentrer,
c'est pas la même histoire,
tout à l'heure avec la météo jardinière, plus dans le temps de saison. Et moi, je crains, j'en parlais la semaine dernière, que lorsque le froid arrive que début décembre, généralement l'hiver peut être normal, entre guillemets, donc avec des vrais risques de gelée. Donc si vous avez cette serre, etc., vraiment faites ce travail-là. Oui.
D'accord, très bien. Bah, c'est parfait alors.
Eh bien, bon jardinage et bonne journée.
Bah, merci, bonjour. Au revoir, pardon.
Mais c'est pareil. C'est
bonne journée à vous. Bonne journée,
c'est pareil,
au revoir, bon week-end.
À bientôt,
merci.
Manuela.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci à vous. Et si tout comme Manuela, vous voulez justement poser votre question à Patrick, c'est le moment ou jamais. Allez-y, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Vous le savez, Patrick Mulan est là chaque samedi et il est là pour répondre à vos questions. Profitez-en. Il est temps maintenant de retrouver le conseil de Patrick.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC. L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil. Patrick, veuillez la recharger.
C'est court, hein,
oui, j'ai pas
Kevin. Remets-le, Kevin, parce qu'il a beaucoup travaillé pour ça. On aimerait le réentendre un peu ou pas? Oui, ça va marcher. Non.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC. L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil. Batterie faible. Veuillez la recharger.
Batterie faible.
Ah oui, c'est la batterie qui parle.
C'est la batterie qui parle, c'est ça. Justement, on va parler de batterie, puisque vous le savez, maintenant ça se généralise. Il y a de plus en plus d'outils de jardinage qui sont sans fil à la patte. C'est bien pratique. Et pour débuter, Patrick, quels sont les outils matériels à batterie dont le jardinier amateur dispose désormais?
On a presque tout, on va dire. Presque tout ce qui était motorisé de façon classique avec ce qu'on appelle des moteurs thermiques, c'est-à-dire des moteurs à essence, on le trouve aujourd'hui à batterie, y compris des tondeuses autoportées. Il y a des nouvelles, donc comme des tracteurs pour tondre la pelouse, qui arrivent avec des batteries. Alors c'est un peu comme la voiture électrique, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir une véritable volonté d'achat, et là vous n'avez pas les avantages fiscaux que vous avez avec les voitures. Et donc, par exemple, une tondeuse électrique à batterie autoportée, ça peut coûter dans les 5 000-6 000 euros, par rapport à une essence qui va vous coûter plutôt dans les 1 500 à 2 000, vous voyez. Donc là, la différence, elle est vraiment marquée. En revanche, pour tout ce qui est portatif, donc que ce soit un tailleur, une débroussailleuse, un coupe-bordure, un aspirateur souffleur, une tronçonneuse, une élagueuse sur perche, un scarificateur, voire aussi d'ailleurs une tondeuse classique, une tondeuse à pousser, ou même, d'ailleurs maintenant il y a des autotractées, moi j'en ai acheté une, je peux vous dire, c'est totalement étonnant au niveau des résultats. eh bien, vous allez pouvoir avoir la batterie. Et même, il y a des sécateurs à batterie qui commencent à arriver au niveau... Alors, il y a longtemps que ça existe en professionnel, mais au niveau amateur, ça commence à arriver. Et j'ai vu aussi une brouette à batterie. Alors, là, c'est plutôt presque de la brouette de chantier, ça coûte assez cher, mais quand on a des grands terrains, c'est vraiment intéressant. C'est pratique. Et on voit bien cette tendance de basculement complet du matériel d'entretien, y compris, et même peut-être plus chez les professionnels, vers la batterie, parce que vous avez beaucoup moins de bruit, et ça, je pense que c'est l'élément numéro un. Quand vous travaillez et que vous êtes un paysagiste d'entretien de jardin et que vous allez, par exemple, passer le taille-haie ou la tondeuse dans des endroits qui sont habités, bah, avec une batterie, c'est quand même plus agréable pour les gens qui sont alentour.
Et puis, l'intérêt, bien évidemment, de ne pas avoir de fil. Bon, ça, ça paraît évident, mais c'est quand même pratique de pouvoir se balader, surtout quand on a un jardin un petit peu grand, sans être obligé de sortir la rallonge, etc.
Oui, mais ça, on l'avait avec le matériel à moteur.
Oui.
Essence, pardon. Avec le moteur à essence, vous aviez cette liberté. Mais là, vous avez raison de le dire, c'est que vous vous retrouvez avec un outil électrique sans fil. Oui.
Donc, non seulement... Plus de pollution aussi.
Alors, que là, on va y revenir. Mais non seulement vous n'avez pas le fil à la patte, mais vous n'avez pas besoin non plus d'avoir une prise de courant à proximité, parce que c'est parfois ça le plus embêtant, c'est de se dire, bon tiens, je sais pas, je vais à la campagne, je vais entretenir mon jardin, ben, où est-ce que je me branche, je sais pas, où le terrain est trop grand, il n'y a pas de prise partout, etc. Voilà.
Oui. Le gain en matière de pollution sonore aussi, il n'est pas anodin, non, j'imagine?
Alors ça, c'est colossal. Alors, on va dire que on peut avoir pratiquement un niveau sonore diminué par deux par rapport au même appareil à moteur essence. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très fort. On s'est rendu compte tout récemment que un coupe-bordure, par exemple, à batterie, ne dépassait pas 48 décibels à 30 mètres, contre 69 pour un modèle thermique.
Ah oui.
Et c'est exponentiel. Les décibels, je veux dire... Quand vous gagnez un décibel,
c'est
pas un petit truc, voilà. Donc ça, c'est très très important. Et donc, on va dire que ça, c'est l'élément moteur majeur que l'on a comme avantage aussi avec la batterie. Parce que franchement, oui, il n'y a pas photo, comme on dit.
Après, la question qu'on peut se poser, est-ce que la puissance des outils à batterie est suffisante pour tous les travaux?
Alors aujourd'hui, oui, ça s'améliore en permanence. D'abord parce qu'on a des batteries qui ont monté en ampérage, c'est-à-dire cet ampérage qui est l'intensité maximale dont dispose la batterie, en fait, lui donne sa performance. Donc on avait des batteries de 2 et 4 ampères il y a encore 2 ans, aujourd'hui on est monté à 6, voire jusqu'à 9 ampères heure. Alors, 7 ampères heure, c'est la capacité de la batterie à tenir aussi la charge dans le temps. Ça, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est qu'une batterie aujourd'hui, vous donne la puissance régulière jusqu'à la fin de sa charge.
Ah oui.
C'est-à-dire que vous n'avez pas un système de baisse de puissance au fur et à mesure que la batterie se décharge.
C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elle s'arrête, on a la même puissance,
voilà,
en fait.
Et on a aussi donc la force électromotrice, ce qu'on appelle les volts, qui ont énormément augmenté. On était au départ avec du 18 volts. On est rapidement passé à du 36 volts ou du 40. Aujourd'hui, on trouve des matériels en 48 et pour les professionnels, en 60 ou 80 volts. Et là, vous avez vraiment, vraiment des performances identiques, je dirais, à du moteur thermique. Il n'y a que certains matériels qui nécessitent vraiment, vraiment des gros moteurs, comme par exemple les broyeurs, où aujourd'hui, on n'a pas de broyeur encore à batterie. Mais ça viendra certainement.
Ça viendra, sans doute. Le point faible, Patrick, des outils à batterie, est-ce que c'est pas leur autonomie?
Alors relativement, évidemment. Hein, c'est-à-dire que si vous avez 2 hectares de terrain à tondre, franchement, c'est pas la peine d'essayer de vous embarrasser avec des batteries. En revanche, pour la quasi-totalité des jardins d'aujourd'hui pour amateurs, vous avez largement suffisant. Je vais vous donner mon exemple personnel. Nous avons acheté une tondeuse autotractée de 48 cm avec une batterie de 40 volts 6 ampères heure. Avec une batterie, on fait 300 mètres carrés de gazon. Ça veut dire quand même que c'est presque la majorité. Alors nous, on n'a même pas de pelouse, on utilise d'autres outils. Mais globalement, avec cette batterie, on s'est dit c'est peut-être pas suffisant, on en a acheté une deuxième. Alors c'est vrai que le problème, c'est un peu cher.
Et oui.
La batterie, c'est l'élément coûteux dans l'outil. Mais quand vous avez plusieurs outils, parce que qu'est-ce qu'on a nous aussi ? On a taille-haie, on a le coupe-bordure, on a les lagueuses. Donc du coup, c'est comme si vous aviez qu'un seul moteur pour toute une panoplie d'outils. Et donc à partir de 2-3 outils, même le fait d'avoir deux batteries, ça commence à devenir assez intéressant.
Patrick, si on parlait de l'environnement, est-ce que justement l'impact de ces matériels à batterie est positif pour l'environnement ?
Alors, il est positif d'un côté, puisque comme vous l'avez souligné fort justement, il n'y a pas d'émission de gaz toxique, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre non plus. En revanche, faut savoir qu'une batterie, c'est pas totalement innocent. C'est la fabrication de la batterie elle-même qui demande à la fois beaucoup de CO2, enfin de rejet de CO2, et qui utilise quand même aujourd'hui un élément naturel qui s'appelle le lithium, dont on sait que les réserves ne sont pas inépuisables. Alors, au mois de février dernier, il y a eu une réévaluation des ressources mondiales de lithium en hausse. Parce que, en fait, le problème, c'est pas tellement les outils de jardin, mon cher François. C'est plutôt ce que nous parle notre ami Jean-Luc le dimanche, à savoir les automobiles.
Et oui, et puis
une batterie d'auto, c'est énormément plus puissant que nos petites batteries pour le jardinage. Et donc, ces batteries, elles demandent plus de lithium. Donc, on a des inquiétudes à terme sur la perte de lithium. Mais sachez une chose, c'est qu'en permanence, les industriels travaillent à la recherche, à trouver d'autres systèmes, et qu'on en trouvera.
Bien sûr.
De notre côté, il y a aussi donc des réseaux qui se sont mis en place pour le recyclage. Parce que la vraie question écologique, c'est de se dire, cette batterie, elle est bien gentille, mais un jour ou l'autre, elle va mourir. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va pouvoir la recycler? Eh bien, aujourd'hui, oui. Il y a d'ailleurs un organisme qui s'appelle le Skrelec, qui est un éco-organisme à but non lucratif, qui est agréé par l'État et qui a pour mission d'organiser la collecte, le recyclage des problèmes de batterie en France. Donc, il y a des choses qui s'installent. Et encore une fois, messieurs, mesdames, les écolos purs et durs, sachez que de toute manière, on reviendra pas à la préhistoire et que l'on vit à une époque avec du matériel, avec du confort, avec des volontés aussi d'avoir des performances et que on peut pas obtenir tout ça simplement en claquant des doigts et en regardant les mouches voler. Voilà.
Eh bien voilà, ça c'est dit. Patrick est remonté comme une pendule. Non, il est remonté comme une batterie qui est pleine à 100%. Hein, c'est ça, hein. Allez,
exactement.
On revient dans un instant. On va parler des vignes vierges. On salue Christophe, notre boulanger préféré, qui nous fait un petit coucou ce matin. Et on revient dans une minute, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Si vous voulez poser vos questions, Patrick est là. À tout de suite.
RMC.
Plantons la vigne, la voilà la jolie vigne.
6h-7h.
La voilà la jolie vigne.
Conseillez-leur le port de la feuille de vigne.
Votre jardin.
La vigne et le houblon.
Vos petits boulets, du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons. Des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure.
François Sorel.
Arrache leurs feuilles de vigne. Arrache leurs feuilles de vigne.
Patrick Mulan.
La maison près de la fontaine.
Et oui, la vigne. Et plus précisément, les vignes vierges, hein, Patrick.
Oui, de vignes vierges qui, alors, comme dit Nino Ferrer, couvrent les murs des maisons.
Exactement, et c'est ce que vous nous disiez, que vous nous dites aujourd'hui, ce sont les reines des couvre-murs. Alors c'est étonnant parce que vous avez utilisé le pluriel dans le titre de cette rubrique. Est-ce que ça veut dire qu'il existe plusieurs sortes de vignes vierges, Patrick ?
Alors couramment, oui, on a au moins 3 vignes vierges qui se trouvent régulièrement dans les jardins. Il y en a même une 4e qui mériterait d'être plus connue. Et en fait, elles se divisent en 2 genres. Un qui s'appelle Ampelopsis et l'autre qui s'appelle Parthenocissus.
D'accord. Mais alors, quel est le point commun entre ces 3 vignes vierges ?
Eh bien, elles ont même un point commun avec les vignes non vierges, donc les vignes à vin, les vignes à raisin. Parce qu'elles appartiennent tous à une famille qui s'appelle les Vitacées. Hein, la vigne à vin, c'est Vitis, et le terme vierge évoque simplement le fait que les fruits de ces vignes dites vierges ne sont pas comestibles pour nous. Parce que, en fait,
on n'a pas de raisin, il n'y a pas de raisin.
Si, aussi, mais ils sont tout petits.
Enfin, ils ne sont pas comestibles.
Ils sont chargés d'acide oxalique.
Ouais,
ils sont vraiment. Si vous en mangez beaucoup, en plus d'avoir. Ça, avec l'acide oxalique, vous avez un goût qui est assez acide, pas agréable. Mais les oiseaux adorent ça.
Tiens.
Donc, ça, c'est intéressant aussi au jardin, puisque vous allez pouvoir aider grâce au vigne vierge, eh bien, la nourriture des oiseaux pendant la période de misette, à savoir maintenant.
Alors, dites-nous donc quelques mots sur ces particularités de cet Ampelopsis.
Alors, l'Ampelopsis, lui, d'ailleurs, son nom veut dire qui ressemble à une vigne. Ampelos, en grec, c'était la vigne, et Opsis, on l'a déjà dit souvent à l'antenne, ça veut dire qui ressemble à. Donc, Ampelopsis qui ressemble à la vigne, et évidemment, la feuille de l'Ampelopsis ressemble nettement à la vigne. Alors, on cultive, nous, essentiellement Ampelopsis. Alors, les noms, attention, hein, ils sont longs comme un jour sans pain. Ampelopsis glandulosa, variété brevipedunculata. On arrête là, on va dire, la vigne vierge à fruits bleus. Et son intérêt, effectivement, à cette plante qui est originaire de Chine, c'est qu'elle donne des fruits qui sont, oui, turquoises, on va dire. Et ça, c'est vraiment très étonnant.
Pourquoi l'Ampelopsis est-elle moins couramment cultivée, Patrick, que les deux Parthenocissus dont nous allons parler ensuite?
C'est parce que c'est un peu frileux, l'Ampelopsis. À partir de moins 10 degrés, elle n'aime pas vraiment. En revanche, on va, dans les régions à climat doux, je vous conseille vraiment la variété élégance, parce que c'est vraiment très joli. Vous avez ce feuillage de vigne, hein, avec ces grandes feuilles palmées découpées, mais qui sont marbrées de rose au moment de l'éclatement, ce qu'on appelle le débourrement au printemps, et puis qui petit à petit se part d'une éclaboussure blanche qui est vraiment, vraiment superbe, avec en plus ces fameuses baies qui, de vert pâle, deviennent bleu turquoise en passant par le mauve.
Allez, on passe au Parthenocissus. Et d'abord, pourquoi ce nom, Patrick ?
Parthenos, ça veut dire vierge, donc là on est bien dans l'idée de la vigne vierge, et Sissus, ça veut dire grimpant, donc c'est une grimpante, alors vierge toujours, parce que ses fruits ne sont pas comestibles pour nous. Il y en a 13 espèces, c'est des grandes grimpantes, encore beaucoup plus grandes que l'Ampelopsis. Vous avez par exemple la vigne vierge vraie, Parthenocissus quinquefolia, ça peut faire 15 mètres de long. Vous imaginez la branche, donc vous pouvez couvrir entièrement un grand mur uniquement avec une de ces plantes.
Patrick, comment peut-on distinguer les deux espèces, donc les plus courantes ?
Je viens de vous dire, la vigne vierge vraie, Parthenocissus quinquefolia. Ça veut dire quoi ? Quinque, 5 feuilles. Donc 5 folioles. C'est une plante qui a des feuilles assez légères, bien découpées, qui est très costaud, qui vient, elle, de Virginie. Elle est originaire d'Amérique du Nord, mais elle est naturalisée dans notre pays. Très grande. Un rouge écarlate en automne, magnifique. Et puis, vous avez des petites inflorescences vert-jaunâtres qui arrivent en même temps que les fruits aussi. C'est vraiment tout à fait intéressant. La deuxième s'appelle tricuspidata, c'est-à-dire à trois pointes. C'est une plante qui est originaire, elle, d'Asie. Et les feuilles sont entières, elles ne sont pas composées comme celles de quinquefolia. Et elles ont trois lobes. Et c'est vraiment des grandes feuilles qui sont particulièrement intéressantes pour leur déclinaison automnale. Parce que autant quinquefolia, elle est rouge, cuivre, éclatant, tricuspidata, elle va être un peu jaune, un peu verte, un peu bronze, un peu pourpre, parfois même rosée, en fonction tout simplement de la luminosité. Plus vous allez exposer une vigne vierge au soleil, et plus elle deviendra rouge. Et quand elle est un peu ombragée, eh bien, elle a une sorte de rose un peu doux, et c'est vraiment magnifique. Mmh. Donc, vous n'avez jamais, on va dire, deux vignes vierges identiques.
D'accord. Et alors, pourquoi préférer les Parthenocissus ?
C'est très, très, très rustique. Ça tient à moins 25.
Moins 25.
Et puis, comme je disais, c'est plus grand qu'Ampelopsis, qui, lui, tient qu'à moins 10. Et donc, si vous voulez vraiment habiller un mur, il vaut mieux prendre un Parthenocissus.
Bon alors, Patrick, on disait, les vignes vierges, les reines des couvre-murs, mais est-ce que ces vignes abîment les murs, tiens ?
Eh bien, pas du tout. Pour quelle raison ? C'est que, à l'aisselle de chaque feuille, c'est-à-dire l'aisselle, c'est la base, vous avez soit une fleur, soit une vrille. Et au bout de cette vrille, grâce à une sécrétion chimique naturelle de la plante, l'extrémité de la vrille se transforme en une sorte de petit coussin qui est autocollant. Et donc, la vigne vierge, elle, se pose sur les murs, se colle sur les murs, mais ne pénètre pas à l'intérieur des crépis ou dans les interstices des briques ou des pierres. À l'inverse, par exemple, du lierre. Autre avantage par rapport au lierre, c'est que elle est caduque, donc les feuilles tombent. En ce moment, elles sont déjà tombées. Eh bien, en hiver, le mur va pouvoir respirer. Bon, on peut reprocher aux vignes vierges parfois d'être des lieux d'accueil, notamment en été. Il faut faire parfois attention qu'il n'y ait pas des nids de guêpes qui viennent profiter de l'ombrage du feuillage de la vigne vierge pour pouvoir se développer. C'est vrai aussi qu'on trouve souvent dans les vignes vierges des araignées. Et si vous avez une arachnophobie, comme on dit, eh bien, il faut peut-être prendre un peu de distance avec la vigne vierge.
Parfait, il est 6h36 sur RMC, on va revenir dans un instant, mais sachez aussi que vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser toutes vos questions sur les vignes vierges et toutes vos questions d'ailleurs plus globales sur le jardin. Hein. Voilà. On a encore une vingtaine de minutes à passer ensemble avec Patrick, on va retrouver la météo du jardinier, quelques-unes de vos questions, les coups de cœur aussi de Patrick. 3216, dès maintenant, appelez-nous ou l'appli RMC Direct Studio. Si vous nous joignez via Direct Studio et que vous posez votre question, c'est bien pratique hein, sur son smartphone. N'oubliez pas votre numéro de téléphone. On revient dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Le retour de ce week-end des experts, le jardin sur RMC, il est quasiment 7h20, grand bienvenue à vous qui venez peut-être d'arriver, la météo du jardinier ça sera dans quelques instants, vos questions, tiens Patrick, petite question qui est arrivée via Direct Studio à l'instant, c'est Roland qui nous dit, ayant une chaudière bois, quelles sont les meilleures utilisations des cendres dans un jardin ?
Alors, il y a deux utilisations principales. D'abord, il faut savoir à quoi ça sert, enfin, ou du moins ce que ça apporte. Ça apporte essentiellement de la potasse, la cendre de bois. Donc, c'est pas mal de le mélanger au compost parce que vous allez enrichir en potasse votre compost. Bon, le mettre directement sur le sol, ça sert essentiellement à faire des barrières anti-limaces.
Oui, parce que les limaces détestent ça, en fait.
Ça les gêne de passer sur la cendre. Mais ça a un défaut. C'est que vous savez bien que les gastéropodes ne sortent que lorsqu'il y a de l'humidité. Or, la cendre, quand c'est humide, très rapidement, ça perd de son efficacité parce que c'est le côté pulvérulent, si vous voulez, qui déplaît aux gastéropodes.
Et à partir du moment où c'est humide, voilà.
Moi, je dis surtout donc le mélanger avec le compost. Encore une fois, on trouve de tout et de n'importe quoi dans les informations actuelles sur les réseaux. La cendre, c'est pas la panacée universelle, c'est pas merveilleux, c'est simplement un déchet que vous pouvez récupérer et réintégrer dans votre jardin. Ça fait pas de mal, mais sachez que pour être vraiment, vraiment, vraiment efficace, par exemple en amendement, il faudrait en mettre 1 kg par mètre carré, et 1 kg de cendre, je peux vous dire, ça fait un gros volume. Donc, ne rêvez pas avec ça. Si vous en avez, vous la mélangez. Et puis voilà. Mais bon, ça suffira pas pour en faire un jardin magnifique.
Voilà. Par exemple, j'ai une cheminée. Je récupère un peu de champ.
Alors, de bois, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Pas de cendre de charbon. Ça, c'est toxique.
Ah, pas de cendre de charbon. Par exemple, chez un barbecue, j'ai de la cendre. Je jette ça.
Non, ça, on jette.
Ça n'a aucun intérêt.
C'est pas que ça n'a aucun intérêt, mais il y a des éléments toxiques dans les charbons. En fait, le charbon de bois, ça pourrait marcher. Mm-hmm. Parce que c'est, encore une fois, c'est du bois. Mais le charbon, le coke, quoi, la houille, ça, on n'utilise pas la cendre de ce genre de combustible.
Patrick, il est 7h20, on va retrouver tout de suite la météo du jardinier en ce samedi 28 novembre 2020. Vous avez un petit peu scruté les cartes de Météo France. Et c'est une semaine, on va dire, un petit peu bascule, non, j'ai l'impression.
Alors exactement, on était dans un automne particulièrement clément, on va dire, et là, comme le dit le dicton qui dit « À Saint-Jacques de la Marche, l'hiver est en marche », eh bien, c'est un peu ce qui va se passer. Alors, on a encore un dimanche qui va être très agréable puisque on aura peut-être déjà une idée au lever du jour un petit peu plus fraîche que d'habitude. On sera entre 0 et 5 degrés au nord de la Loire. on aura quand même jusqu'à 15 degrés au sud. On aura une journée vraiment demain magnifique, ciel totalement dégagé, des maximales en Alsace qui seront qu'à 2 degrés, hein, donc là on met la petite laine, mais on va, monsieur François, jusqu'à 17 degrés en Corse demain, donc voilà, vous pouvez faire un petit coucou à vos amis de là-bas. Donc c'est très très bonne journée pour le jardinage, mais bon, vous pouvez faire tous les nettoyages, des rangements, parce que c'est vraiment le moment aussi de retirer par exemple les mousses, les lichens sur les écorces des arbres, de couper toutes les tiges de fleurs fanées. Ça, il y a vraiment tout un boulot d'entretien encore à faire en ce moment. Arracher par exemple les...
Moi je suis, un petit aparté, je suis impressionné par le travail en ce moment des employés municipaux qui enlèvent toutes les feuilles. Ah oui, c'est incroyable. Mais alors, parce qu'en plus, on a l'impression que c'est pas encore terminé, mais il faut en enlever. Enfin, il y a plusieurs vagues. C'est ça, c'est impressionnant. Hein.
Mais on sait aujourd'hui toute l'utilité des feuilles mortes. Alors, j'insiste sur les feuilles mortes d'origine saine. Personnellement, les arbres fruitiers, les rosiers, je ne les mets pas au compost. Mais composter les feuilles, ça vous fait vraiment un substrat magnifique. Et puis, utilisez-les comme protection hivernale, en paillage. Vous les étendez complètement sur vos massifs et vous allez voir, c'est déjà très très bien. Alors, à partir de lundi, là, ça commence à baisser puisque on va
lundi,
avoir
c'est
du négatif.
C'est après-demain, hein.
Voilà, c'est ça. Le 30 novembre, exactement. Hein, donc, du négatif à moins 1 degré dans l'est et le centre sous abri. Toujours beaucoup de soleil, mais des minimales en baisse. Hein, on sera qu'à 4 degrés en Île-de-France, au mieux de la journée. Ça...
4 degrés au mieux de la journée?
Oui, monsieur. Oui.
Oh là, donc, qu'est-ce que je vais faire de mon citronnier?
Vous pouvez continuer à jardiner, mais il faut mettre les gants. Et puis surtout, il faut se mettre à protéger les plantes fragiles. Hein, donc, par exemple, si vous avez des aromatiques, de l'estragon, du romarin, du thym, tout ça, eh bien, il faut les protéger, notamment des excès d'eau. Donc, moi, je vous conseillerais, pour toutes ces plantes méditerranéennes de garrigue, la sarriette, le romarin, le thym, les empoter dans un substrat sableux et vous mettez la jardinière au plus près de la maison, si possible sous un auvent, pour éviter l'eau. Ça, c'est quand même très important. Bon, après, attention aussi, en ce moment, dès que la température va baisser, les rongeurs passent à l'attaque, et si vous avez des légumes en conservation, faites attention, parce que sinon, il va y avoir des problèmes dans les récoltes. Ouais. Donc, alors, attention, lundi, on vous dit de ne pas jardiner avant 15h50 parce qu'il y a une éclipse de lune. Donc ça, c'est très grave. C'est important. Vous savez que ça ne va pas vous laisser beaucoup de temps parce qu'en ce moment, les jours sont très très courts.
Tiens, Patrick, juste avant de continuer la semaine, mon citronnier, là, qu'est-ce que je fais? Je lui mets son petit pyjama?
Alors, peut-être pas parce que vous êtes dans Paris, qu'il n'y a pas de gelée vraiment à craindre dans Paris, mais bien entendu, abriter, c'est-à-dire de le mettre dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air, le mettre
le rapprocher
plus près
de la maison.
Voilà, faire en sorte qu'ils reçoivent de la lumière. Nous, on les a mis à la véranda, mais vous n'avez pas de véranda. Bah donc, rapprochez ça de la maison.
Alors, je l'apporte chez vous.
Voilà, vous l'apportez chez vous. S'il y en a un, ça va, sinon la véranda, elle est un peu pleine, déjà. Mais oui. Non, mais vous voyez, tout à l'heure, on avait une auditrice qui a une serre, etc. Franchement, si vous êtes des jardiniers passionnés, vous avez un tout petit peu de place, essayez d'avoir une petite serre. C'est vraiment indispensable pour avoir des plantes qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, à partir de mardi, on va avoir plus d'humidité. Il y aura des pluies un petit peu partout, mais les températures vont descendre en dessous de 0 degré, surtout dans l'Est. Toute la franche Est du pays va vraiment subir un peu les attaques du froid. Et jeudi, il y aura moins 6 à Gap au lever du jour. Donc une moyenne de 1 à 4 degrés au nord, et même au sud, parce que la moyenne au lever du jour, jeudi, 4 à 5 degrés sur la Côte d'Azur. Donc ça commence à faire frisquer.
Ah ouais, ça commence.
C'est pas pour autant que vous allez avoir des dégâts dans votre jardin, mais on est vraiment sur ce que je disais, cette espèce de pente douce vers l'hiver. Donc ça sera, à partir de mardi, les journées seront peu favorables pour le jardinage. Donc on aura aussi vendredi la même chose. On est vraiment sur des débuts d'hiver. On a des débuts d'hiver.
Oui, bien sûr. Bah, attendez.
Sauf en Corse.
C'est pas vrai, encore.
Entre 14 et 17 degrés dans la journée.
C'est dingue ça. On a des températures très basses sur la Côte d'Azur et la Corse est préservée.
Elle est préservée.
Alors qu'elle n'est pas loin, c'est dingue hein, quand même. C'est fou.
Mais vous savez, c'est l'influence maritime hein, quand même hein, qui compte beaucoup.
Ouais, bah écoutez, tant mieux, nos amis corses qui nous écoutent, on vous salue.
Donc cette semaine, c'est l'occasion ici de regarder des vidéos chez vous, parce que...
Et des vidéos pas n'importe lesquelles, Patrick.
Bah tant qu'à faire, regarder les vidéos de News Jardin TV, parce que c'est là que je peux vous parler, on peut se parler, parce que tous les jours, je réponds à tout le monde.
Et voilà, et vous postez régulièrement des vidéos, c'est News Jardin TV sur YouTube, notamment, comme ça vous... Vous pouvez suivre Patrick tout le temps et surtout le voir, parce qu'à la radio, on ne fait que l'entendre. Françoise est avec nous au 32-16. Bonjour Françoise.
Bonjour messieurs.
Bonjour. Bienvenue.
Merci. Alors, j'avais effectivement une question à poser à Patrick. Je viens recourir à son savoir parce que là, j'ai un gros problème de bambou. J'ai voulu planter des bambous il y a quelques années. Sur à peu près une dizaine de mètres le long de ma clôture, d'un mur. Et j'ai 32 mètres linéaires. Et voilà que les rhizomes envahissent le jardin, jusqu'à passer même sous des tapinettes pour aller chez le voisin. Enfin, j'ai vraiment un gros problème de bambou. Je ne sais pas quoi faire. On les a coupés l'année dernière. Et là, ça repart vitesse grand V. Donc, comme on ne peut pas mettre vraiment des produits nocifs, qu'est-ce que je peux faire ?
Bah, la seule solution que vous avez, c'est de créer une sorte de no man's land avec une tranchée assez profonde, l'ordre de 70 cm de profondeur, dans laquelle, alors, soit vous mettez rien du tout, et chaque fois que vous voyez des rhizomes qui commencent à arriver vers la tranchée, bah, vous les coupez. Soit vous placez à l'intérieur de cette tranchée ce qu'on appelle une barrière anti-rhizome, mais ça, il faut prendre un produit sérieux parce que très souvent, ce qu'on voit dans les jardineries sont simplement du géotextile un peu souple et qui est très facilement traversé par les rhizomes de bambou. Donc il faut prendre des produits semi-rigides, on en trouve sur l'internet. D'ailleurs, par exemple, je vais faire de la publicité, mais parce que comme c'est pratiquement eux les spécialistes, là, il y a la bambouseraie, la pépinière de la bambouseraie, qui fait ce genre de produits, qu'ils appellent, je crois d'ailleurs, le BAR 70, parce que c'est 70 cm de hauteur. Et ça va permettre donc de faire un rempart infranchissable pour les rhizomes, qui vont remonter en surface. Donc on pose cette barrière très légèrement en pente vers l'extérieur du jardin, de manière à ce que les rhizomes remontent, et on laisse aussi déborder l'extrémité de la barrière de 5 cm environ, hors du sol, de manière à ce que dès qu'on voit un rhizome qui sort le long, en se glissant le long de cette barrière, eh bien, il suffit avec un sécateur de le couper, parce qu'à ce moment-là, il est encore très tendre. C'est la seule et unique solution qu'il y a pour contenir les bambous rhizomateux et qui sont les plus beaux. Alors en revanche, je vais vous tirer les oreilles parce que vous avez fait une chose qu'il ne faut jamais faire avec les bambous, à savoir les tailler. Surtout quand ils sont beaux. Parce que quand vous coupez des cannes de bambou, eh bien, ils repoussent des petites choses moches et il va falloir plusieurs années avant qu'ils refassent des cannes. Alors, si vous n'avez pas tout coupé, c'est pas grave, parce que ça sera que dans les parties coupées que ça va se passer. Mais ça, il faut bien le savoir, c'est que lorsqu'on veut des grosses cannes de bambou, il faut des souches qui ont un certain âge, mais dès que vous les coupez à ras sur l'ensemble, eh bien, vous avez des petites repousses assez pitoyables, du moins pendant les premières années. Parce que je rappelle, le bambou, ce n'est pas un arbuste, c'est une herbe. Et quand on me demande de quelle taille pousse un bambou dans une année, eh bien, c'est la taille maximale que peut atteindre sa canne. Si vous avez un bambou qui peut faire 10 mètres de haut, eh bien, il va le faire dans son année, comme une herbe.
Mais je n'en voulais plus, justement.
Vous voulez les éliminer ?
Ah oui.
Ben pour les éliminer, il faut faire rentrer une pelleteuse dans le jardin. Il n'y a pas d'autre solution, parce que c'est surtout si vous en avez 10 mètres de long, les souches sont énormes, très puissantes.
Si on pousse, ça repousse en fait.
À moins que vous soyez taillé comme un bûcheron canadien et que vous ayez une force phénoménale. Franchement, c'est totalement épuisant d'essayer de faire ça à la main. Et donc la seule solution, c'est effectivement d'utiliser un outil excavateur et puis d'arracher complètement la souche.
Il faut aller profondément là.
Bah, c'est à peu près 60-70 cm de profondeur. Oui.
Mais le problème, c'est que je n'aurai pas la possibilité de faire rentrer un engin, justement. Ouais, parce qu'il y a un petit cabanon, il y a un cabanon, il y a qu'un petit trajet. Voilà.
Donc, bah, alors, essayez de trouver un jardinier très, 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 très costaud qui va accepter, avec la pelle et la pioche, de passer des heures et des heures d'épuisement à essayer d'arracher vos bambous.
Il n'y a pas de désherbant. De toute façon, on n'a plus le droit de mettre quoi que ce
alors,
soit.
Alors, de toute façon... vous venez de donner déjà le résultat, on n'a plus le droit, on ne trouve plus donc de désherbants débroussaillants comme on pouvait trouver avant, mais en même temps, sachez que sur des souches adultes de bambou,
y a rien qui...
les produits les plus forts qu'on avait avant n'étaient pas suffisamment efficaces non plus, hein, de toute façon. Non, il y a vraiment que l'extraction manuelle qui peut donner des résultats.
Merci Françoise pour votre appel. On accueille Pascal maintenant au 32-16. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour. Bienvenue, Pascal.
Eh bien, merci. Merci de me prendre en direct. C'est vraiment super. J'écoute votre émission tous les samedis matin pendant mes livraisons. Donc là, je me suis garé et je me suis permis de...
Alors, on vous écoute.
Vous envoyer un petit message. Oui, voilà. Alors, on m'a offert un rince-bouteille, un super arbuste. C'est vraiment joli comme truc. Mais alors, j'ai un souci. Alors, parce que là, il est en pot. J'ai pas encore eu le temps de le mettre en terre.
J'ai pas compris, c'est quoi ? Un rince-bouteille.
Ah oui, un calistémon. D'accord, ok.
Voilà. Et voilà, je me pose la question. Donc là, il est en pot, il est dehors. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois le rentrer ?
Vous habitez où ?
J'ai encore temps. Dans les Pyrénées-Atlantiques, département 64.
Oh non, si vous n'êtes pas très loin du littoral, parce que bon, dans le 64, vous avez la montagne et puis vous avez le littoral. Donc si vous êtes dans la montagne, évidemment, il faut le protéger. Si vous êtes dans le littoral, il va tenir très très bien à l'extérieur. Très très bien.
D'accord.
Parce que c'est une plante qui n'aime pas bien le gel, mais qui peut supporter un mini coup de froid de temps en temps. C'est ce qui se passe généralement dans la région de Biarritz ou d'Andaille, et voilà, ou de Saint-Jean-de-Luz. Donc vous avez, si vous êtes dans cette région-là, il n'y a pas tellement de risques avec ce type de plante, qu'on voit par exemple très bien aussi en Bretagne, où le climat est encore un peu moins doux. Donc n'hésitez pas à le laisser, bien sûr, en plein soleil. Et comme d'habitude, sur tout ce type de plante, protection des vents dominants. Mais sinon, voilà, c'est vraiment le type de région dans lequel vous pouvez espérer avoir un calistémon qui va prospérer.
Eh bien, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements qui me sont très utiles.
Voilà, est-ce que vous saviez que votre rince-bouteille s'appelle en fait un calistémon ?
Non, honnêtement,
Pascal,
non.
Ben voilà.
J'ai appris quelque chose. Honnêtement, je ne savais pas du tout.
Qu'est-ce que vous nous aviez dit que vous faisiez une tournée. Qu'est-ce que vous livrez, Pascal ?
Eh bien, moi, je suis boulanger pâtissier.
Ah d'accord.
Et voilà, livraison de pain. Et si je peux me permettre de faire la promotion de votre antenne, si vous m'autorisez.
Le gâteau basque.
Je travaille avec du blé uniquement local, 100% béarnais, la Nostépane.
Ah, très bien, alors, ça fera plaisir à voilà. Christian Riquet, ça, qu'on retrouvera voilà. Tout à l'heure.
Donc,
merci Pascal.
Agriculteur, meunier et boulanger que béarnais et le sel de service. Je vous remercie beaucoup. Hein.
Bah, c'est top. Ça donne envie de, ouais. De croquer dans votre pain, tout ça. Hein.
Avec plaisir, ça vous passe
à bientôt, merci en tout cas de votre fidélité. Pascal au 32-16 et toutes vos questions jardin bien sûr, hein, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et on va terminer par les coups de cœur de Monsieur Miu Miu.
Oui, donc je reste dans l'idée des beaux livres pour les cadeaux de fin d'année. Franchement, merci les éditeurs qui avaient oublié un peu les beaux livres ces dernières années et qui reviennent en force maintenant avec notamment chez Plume de Carotte et Terre Vivante. Les deux éditeurs se sont mis ensemble pour faire un livre exceptionnel. Ça, je le dis bien, exceptionnel. Ça s'appelle Graines. C'est un livre collectif qui a été dirigé par Serge Chal, que je connais bien, qui est un très très bon professionnel du jardin. Le livre est extraordinaire. La mise en page magnifique. Il y a de tout. Vous pouvez zapper dans le livre. Moi, j'adore aujourd'hui les livres dans lesquels on surfe comme sur Internet, parce que vous avez des petites choses un peu partout.
Oui, indépendantes qui font qu'on peut...
Exactement, vous n'êtes pas obligé de passer des heures et des heures pour comprendre les choses. C'est remarquablement bien fait, il y a tout, il y a l'histoire de la graine, il y a la botanique de la graine, il y a les usages de la graine, il y a tout ce que l'on peut faire aujourd'hui et demain avec les graines, les photos... Pareil, sont remarquables. Donc franchement, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à des gens qui aiment les plantes, ce livre qui s'appelle tout simplement Graines, avec un sous-titre Tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs, c'est bien. Mais vraiment, je pense que ça frise la perfection. C'est rare que je le dise au niveau de l'édition, mais là vraiment, c'est remarquable. Ça coûte 35€. C'est chez Plume de Carotte et Terre Vivante. Un autre livre qui est aussi un beau cadeau. plus, on va dire, photographique et plus local, puisque c'est les arbres et forêts de Bretagne. C'est aussi un collectif, c'est aux éditions Ouest France. Vous avez 300 pages d'histoire des arbres de Bretagne. Vous trouvez les spécimens les plus anciens. Vous avez des très jolies citations. Les photos sont peut-être pas les plus belles que j'ai vues de ma vie sur les arbres, mais l'ensemble du livre a vraiment de la prestance. Ça coûte aussi 35 euros. C'est chez Ouest France. Ça s'appelle Arbres et forêts de Bretagne.
Eh bien, entre les graines et les arbres, on a fait le tour. Voilà. Merci Patrick.
Eh bien, j'embrasse les jardiniers, ma petite jardinière, ma petite perle, et je dis bonjour monsieur Christian.
Eh bien, bonjour monsieur Miu Miu.
Comment va Perle, tiens, en fait, votre petite chienne qui est magnifique, tout va bien?
C'est trop.
Ben, c'est trop.
Ça, c'est, comment dire, ces chiens-là, c'est tout un élan de bonheur permanent.
Mais elle est trop belle en plus.
Alors, on la montre souvent sur nos vidéos, et de plus en plus, les gens disent, tiens, une petite caresse à Perle, et tout ça, ça fait un lien.
C'est la star.
Non, mais vous savez, on ne fait plus d'animaux, mais les animaux, c'est un lien social phénoménal. Mais
bien sûr, bien sûr. C'est le chat de Christian qui ne va pas nous dire le contraire.
Oui, alors, mon chat s'appelle Émile.
Émile.
Émile
le chat.
Il est magnifique.
Magnifique.
Je l'ai déjà mis sur ma page Facebook, mais je vais le mettre sur la page Facebook de l'émission.
Mais bien sûr, voilà. On se retrouve dans un instant, Christian, pour notre rendez-vous maison. Bien sûr, toutes vos questions bricolage maison déco au 32-16. On va parler d'architecte d'intérieur tout à l'heure.
Oui, on va parler du rôle de ce métier passionnant, qui est celui de l'aménagement du logement, de la décoration, de tout ce qui tourne autour de notre bien-vivre. En ce moment, c'est important, puisqu'évidemment, on vit de plus en plus chez soi. Et on va parler, évidemment, comme toujours, un petit peu ces derniers temps, de télétravail aussi, des contraintes que cela impose, comment le vivre le mieux possible.
Parce que forcément, on aménage notre maison différemment avec ce télétravail. On en a déjà parlé d'ailleurs.
Oui, on va parler aussi de tirage de cheminée, c'est important. Oui. Là, on commence à en faire vraiment des feux.
Et 32-16 pour toutes vos questions,
Christian. Je vous fais mon coup de gueule tout à l'heure.
Voilà, on revient dans un instant. Météo Info, à tout de suite.